Salutations, François Bourgat.
Bonjour.
On est déjà complices du côté d'Ami Télé parce qu'on a commencé à tourner. Alors, les gens vont vous voir la binette éventuellement, vous qui êtes responsable de la chronique financière. Et comme M. Remington le disait, on a tellement aimé qu'on a acheté la compagnie.
C'est gentil.
Merci beaucoup d'être là. François, moi, je ne vous connais pas. Alors, j'ai envie que vous me parliez de vous. Comment décririez-vous François Beauregard?
Oh là là!
Les mots qui vous viennent en tête.
Bien, je vous dirais que je fais beaucoup de choses et que mes journées sont bien remplies. Ma profession, ce que je fais comme travail, je suis conseiller en placement depuis plus de 30 ans. Donc, je m'occupe des finances personnelles d'individus. Ça, c'est mon travail. Ouais. Mais je suis aussi handicapé visuel. Alors, ça teinte une partie de mes heures de loisirs. Je joue au hockey sonore avec les Hiboux de Montréal.
Ben oui, semble-t-il que vous êtes signé à Toronto il y a 2 semaines.
Ah oui, oui, ouais, oui,
les
tout à fait.
Ont dit ça, bravo. Des Torontois.
Exact.
Même.
Alors, il y avait un tournoi national à Toronto de hockey sonore auquel tournoi a participé une grande partie de l'équipe des Hiboux de Montréal. L'équipe avec laquelle je jouais a gagné la médaille d'or. Alors, ouais. Sur 6 équipes,
pourquoi?
On est arrivé premier. Bravo.
Tant qu'à se déplacer.
Voilà. Alors, donc, une partie de mon temps est consacrée à du sport parce que avant que ma vue ne décline de façon importante, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et il y a une certaine... un besoin physique quand on fait beaucoup de sport. Là, on s'ennuie ou on se sent mal quand on n'en fait pas pendant quelques semaines. Alors, oui, je joue au hockey beaucoup avec les Hiboux.
Au tennis,
au golf. J'ai fait beaucoup de randonnées pédestres aussi, beaucoup de ski de fond. Ça, c'est une autre partie de ma vie. Puis ouais. Une autre partie qui est consacrée à ce qui peut-être sera une occupation au moment de ma retraite prochaine du domaine des finances, mais ce dont on parlait de notre collaboration à Ami Télé ou à Canal M aussi.
Vous aimeriez éduquer les gens?
Oui, beaucoup. Parce okay. que je vais vous le dire, puis là, c'est sans manque de respect pour ma profession et puis les gens qui la pratiquent et notre clientèle, mais d'aider des gens fortunés à être plus fortunés, à un moment donné, il y a une certaine vacuité morale à ça. On se lève le matin, puis on dit « Ah, bien, monsieur un tel qui a déjà 3 millions, mm-hmm. eh bien, si je travaille bien aujourd'hui, il va encore avoir 3 millions et un peu plus.
Ouais. »
Puis je me dis, dans l'univers, il y a peut-être des gens qui ont davantage besoin d'une expertise avec... Parce que les finances, l'argent, c'est inévitable. Même quand on n'en a pas beaucoup ou très peu, ben diable, on a besoin de ce qu'on a, puis il faut bien l'utiliser. Alors, c'est un incontournable, même si on n'aime pas le sujet.
Oui, Séraphin dirait, l'argent, ça en prend un petit brin pour vivre.
Oui, ouais. Voilà, puis quand on en a un peu plus, mais ça va un peu mieux.
Ouais.
Donc, je pense que dans une optique plus large, de spirituelle, si je peux dire, je pense que c'est important de redonner aux gens qui en ont besoin une partie de ce que l'on a comme expertise. Moi, je suis zéro en mécanique automobile, alors je ne commencerai pas à dire je vais réparer des autos pour rendre service à la société. Là.
Ce ne serait pas de leur rendre service.
Ce serait dangereux. Voilà, alors on fait d'autres choses.
Parlez-moi de votre pathologie oculaire, parce que là, on se dit, bon, il joue au golf, il joue au tennis, il joue au hockey, finalement, ça va bien
ben,
son
ça
affaire.
Ça ne veut pas dire que je joue bien, là. Je fais de la rétinite pigmentaire. Alors, la rétinite est une dégénérescence de la rétine, la couche intérieure de l'œil. Sur la rétine, vous avez des cellules en cône, en bâtonnets. Les bâtonnets captent la lumière, les cônes, la couleur. La rétinite est une maladie héréditaire. En fait, c'est un syndrome de Usher parce que je suis un peu sourd de l'oreille gauche.
Okay.
Là, mais essentiellement, la rétinite se manifeste par une dégénérescence où les cellules en bâtonnets qui captent la lumière meurent une par une. Maintenant, j'en ai plus beaucoup. Donc, je vois juste en plein centre. Et puis, je suis photosensible. Je suis facilement ébloui. J'ai de la difficulté dans la pénombre. Et j'ai un champ visuel d'à peu près 5-6 degrés là, qui est en plein milieu, un petit peu en haut. Ce qui est un peu déroutant parce que je suis quand même capable de lire les cris ou de lire le nom des rues. Enfin, si je suis capable de trouver la pancarte, je suis capable de la lire.
Ouais.
Mais faut-il trouver la pancarte dans le tunnel? Là? Voilà.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le syndrome de Usher est un syndrome évolutif.
Oui, okay. Tout à fait, exact. Quand je suis... il y a différents degrés de lourdeur ou d'acuité du syndrome. Mes deux frères, ma sœur et moi-même, on a le même syndrome de Usher 2A. Quand j'étais jeune, jusqu'à 17-18 ans, j'avais pas de problème de vue. J'ai commencé à perdre ma vision nocturne à la fin de l'adolescence. C'est au début, la fin de la vingtaine, début de la trentaine, où là, mon champ visuel a implosé là, de façon importante et rapide. Et ça continue à se détériorer.
Et Louis?
Louis, ben ça, c'est plus récent. C'est plus dans les 10 dernières années. Là, c'est plus du côté gauche, surtout.
Est-ce que vous avez déjà mentionné syndrome d'Usher sur un CV?
Non, pas vraiment. J'ai jamais mentionné à personne d'une façon officielle que j'avais une déficience visuelle.
À l'entrevue?
Non.
Non plus?
Remarquez que je suis travailleur autonome, mais ça fait déjà plusieurs années que je fais le même métier auprès du même employeur ou la même institution financière. Alors, ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de CV, je dois dire. Mais le coming out, hein, on va dire ça comme
ça.
Pendant un certain nombre d'années, quand ma vue est devenue déficiente au point que ça changeait mes habitudes de vie, j'avais à peu près 29, 30, 31 ans. Là, c'est sûr qu'à ce moment-là, comme plusieurs, bien là, il y a un deuil, il y a de la colère, de la tristesse, de la dépression, mais ça a duré un certain temps. Mais à un moment donné, on finit par se secouer puis on se dit, bon, ben rien ne va m'empêcher de faire ce que je veux faire. Là. Les seules limites que j'ai, c'est celles que je me fixe.
Il y a eu un événement déclencheur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on dit « c'est assez »?
Ben, je vais vous dire que ce qui m'a inspiré, c'est une fois que je me promenais sur la rue en allant au travail avec ma canne blanche, qui était à ce moment-là encore un objet que je trouvais étranger et stigmatisant.
Je comprends.
J'ai croisé ou j'ai passé juste à côté de quelqu'un d'autre qui était aussi complet veston, là, cravate, mm-hmm. avec une canne blanche. Puis j'étais capable de reconnaître qu'il avait le même accoutrement que moi. Puis il marchait vite et il semblait très, très décidé. Alors, je l'ai abordé et puis je lui ai dit, j'ai mis ma main sur sa canne et la sienne sur la mienne en disant, je pense qu'on a quelque chose en commun. Ouais. Alors, j'ai fait connaissance avec lui. C'est un jeune homme qui s'appelle Frédéric Beauvais, qui, je pense, aujourd'hui habite en France, qui était avocat. Et on est allé dîner ensemble. Et là, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit, François, on a une responsabilité envers les autres personnes qui ont aussi des handicaps visuels, parce qu'on est très chanceux, toi et moi. On a un bon job, on a un bon travail. On a pu se réaliser professionnellement, alors que beaucoup de personnes qui ont un handicap visuel sont confrontées avec le chômage et un avenir plus limité. Mm-hmm. C'est notre devoir de les aider. Et j'ai trouvé la rédemption en aidant les autres, ce qui m'a défixé de mon propre apitoiement. Et la première chose, deux jours après, je suis allé voir les gens de l'INCA qui étaient à ce moment-là sur la rue Joliette, dans l'est de la ville. Puis je suis rentré là, puis je leur ai dit « Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Quand vous demandez ça à un organisme...
C'est assez inhabituel.
Oui, mais ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, vous vous faites aspirer dans l'engrenage parce qu'il n'y a rien comme un bénévole...
T'as combien d'heures à nous donner?
Oui, voilà. Ouais. Alors là, ça a déboulé toute une suite d'implications dans le milieu handicapé visuel, mais essentiellement, c'est de s'occuper d'autrui. L'apitoiement est corrosif. C'est vraiment pas une...
C'est peut-être un passage obligé, mais il ne faut pas traîner
voilà,
le longtemps.
Il faut finir par se lever et faire autre chose. Alors, je remercie encore Frédéric Beauvais, que je n'ai pas rencontré depuis maintenant 20 ans.
Mais salutations à vous, François Beauregard, parce que vous l'avez arrêté sur la rue.
Oui, c'est ça. J'ai eu cet éclair-là ce matin-là.
Le préjugé de valoriser le complet, et ça vous a servi.
Oui, mais on marchait sur une rue où tout le monde avait des complets.
Oui, j'imagine. Voilà.
C'est juste qu'on était deux à avoir des cannes blanches, et ça, c'était l'exception.
Ouais. Auprès du client qui a quand même un bon revenu, puis qui voit peut-être un gars qui a un coup d'œil un peu différent, est-ce que ça vous a parfois joué des tours?
Non, pas vraiment. La fois où ça... Puis maintenant, j'en parle, puis je trouve ça drôle, c'est qu'au début de ma carrière, je dirais d'handicapé visuel et conseiller financier à la fois, j'avais pas d'auto et je me déplaçais en métro puis en autobus. Et j'étais rencontré une fois un client dont le bureau était sur la Transcanadienne, l'autoroute 40, passé dans l'ouest de la ville. Ouais. Et il était directeur d'une grande usine. Et moi, j'ai débarqué de l'autobus à un coin de rue derrière, et puis j'ai marché sur la voie de service, là où personne ne marche. Mm-hmm. Et je suis arrivé à la réception, j'ai demandé de parler à monsieur un tel, la réceptionniste m'a annoncé, et dès que j'ai eu le dos tourné, je l'ai entendu chuchoter dans son téléphone, il est arrivé à pied.
Okay.
Comme quoi j'étais un martien, là, je venais de débarquer, je venais d'être télétransporté, là, et c'était très suspect que je sois venu à pied. Là.
Alors, donc c'est plutôt ça qui a impressionné que le fait que peut-être vous voyez différemment des autres.
Oui, je pense que oui, parce que dans un environnement de travail, je suis assis d'un côté du bureau, mon client est en face de moi, puis ce qui compte, c'est l'écoute et ce que je vais dire. Oui, parfois, je suis un peu malhabile avec les tableaux, les chiffres. Mon écran d'ordinateur est d'une couleur spectaculaire avec des très gros chiffres. Mm-hmm. Mais somme toute, ce qui compte, c'est la qualité du propos.
Oui, et les gens pourront en juger. D'ailleurs, dès ce week-end, on vous entend du côté d'Accélib. Vous voulez nous parler de crédit d'impôt, semble-t-il.
Oui, tout à fait.
Oh, bon, on fera ça. Anne-Laure Janson est à la recherche. Rémi Hermoso du côté de la mise en onde. Claudia Benoît aux réseaux sociaux. Louise Vien, elle, est directrice de Canal M. Mon nom est Luc Fortin. Je vous souhaite de passer une bonne semaine ou bien à presque bientôt pour accéder.